Artorama, salon international d'art contemporain à Marseille, se déroule du 14 au 25 septembre 2007 à la cartonnerie Friche Label de Mai. Et Artorama, c'est tous les jours sur Radio Grenouille à travers des interviews de collectionneurs, galeristes et artistes présents. Aujourd'hui, Janine et Yves Le Goff, collectionneurs.
Ma femme faisait de l'aquarelle et elle était dans un club d'aquarelle à Toulon et ainsi de suite. J'ai acheté ma première aquarelle, c'est à elle que je l'ai achetée et ainsi de suite. Nous avons acheté le régionalisme, c'est-à-dire que nous avons eu ce qu'on appelle le chemin de croix marseillais. On a acheté les régionaux et puis petit à petit, on s'est pris au jeu et on a connu des grosses pointures qui nous ont aidés à circuler dans ce monde un petit peu difficile à comprendre. Et on a eu la chance de rencontrer, tiens, je te cite au hasard, un qu'on aime bien, c'est Gérard Tracandi, et puis d'autres, et puis surtout la galerie Pélas. Et puis
un copain qui s'appelle Casa.
Un copain de Grenoble qui s'appelle Casa et qui était prof aux Beaux-Arts de Grenoble, on a fait des voyages avec lui à Florence, en Allemagne, partout avec des étudiants, et on a trouvé ça super. Et puis voilà.
Vous parlez de monde compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué dans ce monde?
Ben, c'est-à-dire que si tu circules pas, si tu voyages pas, si tu t'ouvres pas à la découverte, tu es un petit peu noyauté. On a connu ainsi un artiste qui nous a menés dans son atelier pendant des années. Il nous invitait le dimanche à manger un gigot. Et après le gigot, on partait dans son atelier. Il me disait que j'avais l'œil juste et que j'étais un solaire. Il me flattait et je partais avec une œuvre d'art de sa création. Et je suis resté ainsi ligoté par amitié pour un artiste pendant des années. Et donc, voilà, c'est qu'après, il faut sortir de cette emprise.
Et comment vous êtes sorti, vous, de cette emprise-là?
Ben, c'est mon épouse, une fois, qui a eu le regard beaucoup plus clair que le mien. Elle m'a dit, non, mais tu n'es pas du tout un solaire, tu es normal. L'œil juste, je ne sais pas si tu as l'œil juste. Mais enfin, maintenant, c'est moi qui prends la directive des opérations de bourse. Et donc, on ne va plus arrêter de dépenser notre argent toujours dans le même sens. Donc après la 21e œuvre que nous avions de cet artiste, on est passé à un autre artiste.
Et ainsi de suite. Et après une vingtaine, et puis encore un autre, et puis après on a dit non, maintenant on va s'arrêter.
Quels ont été les gens qui ont été importants dans ce parcours pour vous aider justement à y voir juste?
Marc et José, Jean Solin. Oui, moi, c'est vraiment notre référence. Voilà, à Marseille,
et
c'est sûr.
Un copain aussi qu'on a qui s'appelle Hervé Lebrun. Chaque collectionneur a donc un regard différent, une approche différente, mais toujours très enrichissante. Et les gens Solin nous ont fait connaître les grands marchés de l'art tels que Bâle, tels que Cucuron les Olivettes. Non, c'est, vous avez bien compris que les mots me manquent tellement l'émotion est grande d'être interviewé par Radio Grenouille. Bien. Et merci. Et maintenant, je passe la parole à mon épouse parce que j'ai soif.
Quels sont les endroits les plus importants pour vous pour mener votre activité de collectionneur?
Pour moi, c'est Bâle. Hein. C'est la foire de Bâle. C'est une des foires les plus importantes. Voilà. Après, c'est la FIAC. Enfin, il y a la FIAC.
On a eu la chance de connaître les directeurs de ces foires, notamment Martin Bettineau. Jennifer Flay, tous ces gens sont captivants. Après, on a connu les galeristes. À chaque fois qu'on a acheté une œuvre, on se faisait ainsi des amis nouveaux. Et ça fait boule de neige. Et maintenant, on est très heureux d'être dans cette espèce de bocal où circulent les mêmes poissons. Alors forcément, dans ce bocal, il y a des petits requins, puis il y a des petits poissons roses comme nous. Et nous... Voilà, on fait partie des gentils, mais on est conscient qu'on se fait un peu manger, mais on nous apporte tellement que ça vaut le coup, quoi.
Est-ce que vous avez eu des périodes particulières dans votre parcours?
La période essentielle, ça a été l'achat en 1980 d'un Tony Cragg, qui est une œuvre majeure. C'est une lune faite à partir de morceaux de plastique de couleurs différentes collés, de détritus, ramassés dans les poubelles. Donc cette œuvre qui a été sublimée est devenue emblématique de notre collection. Ce qui fait qu'elle était dans une maison qui ne correspondait plus à sa dimension et on a été obligé à partir de cette œuvre-là de basculer dans un autre système d'architecture, de se faire construire une maison Parisotti et à partir de là, le lieu étant lui aussi magique, d'autres artistes sont arrivés un petit peu dans la lignée de Tony Krack. Les années 80, on a acheté ainsi aussi, on a été très proche de l'Arte Povera, on a acheté un Mario Merz. Et c'est vrai qu'il faut se distancier des grands noms, il faut se distancier des grandes collections, garder de l'humour. Et c'est ainsi que ça fonctionne bien, parce que c'est une collection qui a un squelette un petit peu d'humour, d'amour avec ma femme. C'est un couple qui fait la collection et ça nous permet de nous faire des petits clins d'œil dans les foires quand on acquiesce sur l'achat d'une œuvre. C'est merveilleux. C'est avec beaucoup d'émotion que je dis ces mots, mais je suis là dans cette prison et croyez-moi, ça fait 15 ans que je suis, c'est pas facile.
Alors le parcours de la collection, ça a commencé les aquarelles provençales et aujourd'hui, ça en est au conceptuel, c'est ça?
Et conceptuel, et puis des œuvres, un morlet, enfin juste des traces, des traits, enfin voilà, moi ça me parle beaucoup, ça j'aime bien.
Ça fait combien de temps que vous collectionnez?
20 ans.
20 ans, oui. On est en train d'essayer de se mettre en quelque sorte à la page, mais se mettre à la page, ça veut dire collectionner des vidéos. Les jeunes artistes, on achète les émergents, bien évidemment, mais on n'est pas encore rentré dans le monde du son et de la lumière et de la vidéo. C'est très compliqué pour nous. On est un petit peu saturé d'images, semble-t-il. Et
on est passé à côté de vidéos que j'aurais bien aimé avoir, entre autres une de Bismuth, je me souviens, avec les animaux qui faisaient parler, avec toutes ces langues étrangères, ces nationalités là qui se retrouvaient à travers le monde des animaux. Et puis, il y a plein de vidéos qui nous auraient plu, même celle de Gaillard, de Cyprien Gaillard qu'on vient de voir ici, on l'avait vue à Bâle, elle nous plaisait beaucoup cette vidéo. Il va falloir un jour, ça va basculer, c'est sûr.
Des installations, des locaux, des grands locaux, ou des ambiances très intimistes, c'est encore toute une organisation qu'on n'a pas encore trop touchée, mais on approche. Voilà, c'est peut-être dans le futur, c'est
peut-être trop tard,
hein.
On pourra plus.
Oui, ce qu'on constate, c'est que maintenant, pour approcher les artistes jeunes, il faut des gros sacrifices financiers, qu'on est peut-être un peu dépassé et qu'on finira peut-être à collectionner les napperons de bistrot. Oui, pourquoi pas, parce que l'évolution est exponentielle en ce moment. Donc on le voit dans les... Avant, on pouvait chaque fois, dans une foire, revenir avec un petit souvenir. Maintenant, c'est plus difficile, mais bon, on va y arriver quand même.
Quand on achète une œuvre qui passionne comme ça d'un artiste, est-ce qu'on a forcément envie de le rencontrer et d'essayer de construire des relations amicales avec lui? Est-ce que ça va forcément ensemble?
Pas forcément. Parfois, c'est des bonnes rencontres. On s'en fait des amis, mais c'est pas souvent, hein. C'est plutôt rare. Et finalement, des fois, ne pas les connaître, c'est pas plus mal, on reste avec ce qu'ils ont à dire, c'est tout.
C'est bien d'avoir une liberté par rapport aux artistes, parce que c'est vrai que certains te plantent les crocs dans le dos, après tu as du mal, tu ne peux pas constamment suivre le même artiste, tu ne peux pas le décevoir non plus, tu ne peux pas être accroché à lui, donc tu es obligé de le lâcher un peu, alors ils sont susceptibles et parfois ils sont fragiles, donc... il faut pas trop s'impliquer amicalement avec eux, il faut les connaître, mais pas lier des liens trop forts.
Vous vendez beaucoup
Non, on vend pas. Non, c'est parce qu'on est très attaché effectivement aux œuvres et ce sacrifice, On n'est pas capable de le faire encore. Peut-être qu'un jour ça viendra, on va se lasser de certaines pièces. Mais c'est pas encore dans notre tempérament, non. C'est pas...
Voilà. Vous vivez avec les pièces.
On vit avec les pièces, oui. Les enfants sont aussi portés vers l'art contemporain. Ils ont des situations qui vont permettre sans doute de poursuivre, et je l'espère, la collection. Donc on leur a déjà imprimé une marque, une trace à suivre, et on est heureux de ça. Ça aussi, ça fait partie de notre collection. C'est élever nos enfants. J'ai une fille qui est architecte, j'ai une fille qui est designer. Donc sans doute que le fait de collectionner, le fait d'aimer les architectes, d'avoir construit une maison avec Ricciotti, là aussi ça nous a apporté énormément, une ouverture considérable sur la façon de voir les gens, de concevoir la vie actuelle. Et on est très heureux que nos enfants suivent ce chemin. Ouais. Ah ouais.
C'était Janine et Yves Le Goff, collectionneurs. Artorama, salon international d'art contemporain à Marseille, c'est jusqu'au 25 septembre 2007 à la Cartonnerie, Friche Label de Mai, et tous les jours à 17h30 sur Radio Grenouille. 88.8.